Voix Nue. Cette semaine, Pierre Chassagneux rencontre Enki Bilal. Ce soir, de Belgrade à Paris, une jeunesse, deux territoires.
Bonsoir Enki Bilal.
Bonsoir.
Toute cette semaine, nous allons croquer ensemble votre carrière artistique, une carrière protéiforme dont les œuvres singulières se révèlent parfois visionnaires sur notre époque. Connu et reconnu comme l'un des acteurs majeurs de la bande dessinée des 20e et 21e siècles, vous n'êtes évidemment pas que cela. Scénographe, affichiste, réalisateur de films, de vidéoclips, plasticien, peintre, vos centres d'intérêt et vos moyens d'expression sont tellement variés qu'il est ardu de parvenir à vous faire entrer dans une seule case, un comble pour un dessinateur de bande dessinée. Avec vous, pas d'étiquette, mais plutôt des questions. Mémorielles, environnementales, politiques, mais aussi scientifiques ou oniriques, toutes jalonnent vos œuvres, épousant çà et là les soubresauts de l'histoire, renvoyant au passé de vos personnages, anticipant parfois leur futur, mais aussi le nôtre. Mais avant de déployer ensemble la carte de votre histoire et l'espace de vos influences, Enki Bilal, vous rêviez de faire quoi quand vous étiez un très jeune garçon ?
Je rêvais de quoi ? Alors, très jeune garçon, j'étais à Belgrade. J'ai passé mon enfance jusqu'à Genève, 10 ans à Belgrade. Alors, je rêvais de quoi ? Je jouais beaucoup au football. Alors, je pense que j'ai rêvé d'être footballeur professionnel. Enfin, je savais pas qu'on pouvait vivre du football à cette époque-là. Mais en tout cas, Belgrade, c'était une ville où le sport était présent, omniprésent dans la vie des gens. C'est assez curieux, d'ailleurs, en arrivant en France plus tard, je me suis rendu compte que les intellectuels méprisaient le sport en France. Alors que là-bas, les intellectuels faisaient partie du sport, avaient leur comportement de supporters, connaissaient tout des équipes, que ce soit du foot, du basket, enfin tout un tas de sports comme ça collectifs, les échecs faisant partie aussi des sports aussi. Et donc je pense que j'ai rêvé de ça parce que je jouais beaucoup et que même à un moment dans cette période de ma vie à Belgrade, jusqu'à 9 ans, je pense que c'est un recruteur de l'Étoile Rouge de Belgrade qui est allé voir ma mère. Mon père était déjà parti depuis 3-4 ans. Et il lui a dit, ouais, vous devriez inscrire votre garçon, petit garçon comme ça à l'Étoile Rouge, on s'en occuperait bien. Voilà.
Alors Enki Bilal, vous êtes né à Belgrade en Yougoslavie au début des années 50, un pays imaginé au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui aujourd'hui n'existe plus. En quoi la création, puis la disparition de ce territoire, a pu conditionner vos œuvres ?
Alors là, j'ai parlé de football comme rêve de gamin, mais il y a quand même un autre rêve qui est venu se greffer dans cette enfance, c'est le dessin, quand même, très très vite. Je reproduis un cheval dessiné par ma mère, qui dessinait bien aussi. Et ce cheval est un peu un point de départ de mon envie de dessin et de ma passion du dessin. Et donc cette... L'enfance que je passe à Belgrade, c'est une enfance d'éponge. Je suis un peu comme une éponge qui prend cette terre du temps, à la fois complexe sur le plan familial, puisque donc mon père était parti, qu'il avait été proche de Tito. Tito est toujours au pouvoir, donc ça c'est une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de ma mère, qui devait être très difficile à vivre. Mais en tout cas, je prends voilà le toutes ces terres, je dirais, politiques très puissantes. On est quand même pas loin de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est les années 50 et Tito avait fait en sorte que Belgrade reste une ville marquée par ses blessures de guerre qui lui servaient, je pense, un peu aussi de système de communication, comme il y avait énormément de délégations étrangères, de chefs d'État qui venaient, qui rendaient visite à ce personnage, ce dictateur atypique. Donc lui, il était fier de montrer que Belgrade avait souffert des bombardements nazis, de la guerre, et que c'était un pays de résistance, un pays victorieux, on va dire.
Alors Tito, c'est effectivement le chef emblématique de la Yougoslavie socialiste. Il est né Josip Broz. Tito, c'est son nom de résistant. Et votre père a travaillé auprès de lui comme artisan tailleur.
Alors, avant de travailler, il s'est battu aux côtés de Tito. Dans les partisans, donc Tito était le leader, le chef de cette résistance dans les Balkans. C'était une situation très complexe, parce qu'il y avait les Croates, il y avait les Oustachis, les Tchétniks. Enfin, c'était terrifiant comme période, mais en même temps, il y avait ce combat contre le nazisme. Et Tito était le grand timonier de ce combat-là. Et mon père faisait partie des partisans qui étaient dans son groupe, étaient assez proches de lui à ce moment-là. Et à la fin de la guerre, donc, Tito lui propose, comme mon père était déjà tailleur, lui propose de devenir son tailleur officiel, ce qu'il est devenu quelque temps. Et donc, voilà, mon père, moi, j'étais tout petit, c'était avant qu'il ne parte, j'ai pas de souvenir de cette période, mais je sais que j'étais fier chaque fois que je voyais une photo de Tito, et on en voyait quand même pas mal partout dans la Yougoslavie d'alors. Je veux dire, que ce soit dans un restaurant, un café, une pâtisserie, il y avait partout des photos de Tito, et dès qu'une photo nouvelle apparaissait, j'étais fier parce que je voyais le costume que portait Tito, et je me disais, c'est mon père qui l'a fabriqué. Alors c'était des costumes de maréchal, c'était des trucs très, avec des décorations, etc., décorations plutôt, ouais. Voilà, mais c'est une période dont j'ai peu de souvenirs, bien sûr, et les aboutissants, je les connais pas vraiment, parce que le fait de partir pour mon père, ça a dû être quand même une situation particulière vis-à-vis de Tito, cet éloignement. Je ne sais pas trop comment leur histoire s'est terminée. J'ai jamais pu parler de ça avec mon père.
Quelles étaient les origines sociales et culturelles de vos parents?
Alors, mes parents, puisque je parle de mon père était alors bosniaque, donc là on va rentrer dans la complexité de la Yougoslavie d'alors. Hein, c'était natif de non loin de Sarajevo, d'une petite ville qui s'appelait Ljubuški, un petit village qui est devenu une petite ville maintenant. Donc musulman de nationalité, puisque Tito avait décrété que musulman ça pouvait être une nationalité, pas pratiquant. Il ne pratiquait pas, donc ma sœur et moi, on n'a jamais reçu d'éducation religieuse de ce côté-là, pas plus que du côté de ma mère, qui était catholique, elle. J'ai souvent tendance à dire que c'est peut-être le seul point dans la vie de couple de mes parents qui les a vus se mettre d'accord sur quelque chose. C'était cette espèce de no man's land religieux. Et personne n'impose à ses enfants la religion, donc... mon père, donc, milieu modeste, hein, à cette époque, évidemment, la Yougoslavie, c'était déjà quelque chose d'assez bâtard, hein. La guerre a finalement précipité et a scellé comme ça ses destinées de pays d'origine différente, d'ethnie, de religion différente aussi. Donc, Tito a été le catalyseur de cette espèce de ciment comme ça qui s'est fabriqué à ce moment-là, mais avant donc c'était plutôt milieu très très modeste, hein. Ma mère, même chose, venue de Tchécoslovaquie, elle est arrivée très tôt à Belgrade accompagnant ses parents, mon grand-père que je n'ai jamais connu, j'ai pas connu mes grands-parents maternels, j'ai juste connu ma grand-mère paternelle, donc une famille assez peu unis par la force des choses, par l'événement géographique. Mais je sais que mon grand-père, du côté de ma mère, était tailleur de pierre. Voilà. Donc modeste aussi. Et puis ils se sont rencontrés à Belgrade et c'est là que leur histoire est née. Et que moi je suis né aussi, et ma sœur aussi.
Alors concernant vos parents, vous me dites que votre papa et votre père, pardon, étaient tailleurs. On l'imagine maniant plutôt bien les ciseaux, les pastels. Et qu'en était-il de votre mère? Est-ce qu'elle avait quelques dons ou appétences artistiques à l'époque?
Alors le don que moi je lui ai vu, c'est celui de ce cheval et de qu'elle m'a dessiné. Pour moi, c'était comme un modèle. Elle avait une facilité pour le dessin, mais elle n'a jamais pu l'exprimer en Yougoslavie, à Belgrade. Elle n'a jamais pu l'exprimer parce qu'il n'y avait pas... il n'y avait pas de débouché. C'était pas à l'ordre du jour. Elle était dans la gestion d'une situation assez complexe, hein. Mon père, donc, son mari parti en France pour quand même 3-4 ans, c'est beaucoup, hein, à ce moment-là, et puis s'occuper de nous, hein, ses enfants. Elle a appris, je pense, un peu la couture aussi là-bas, et ce qui lui a permis, lorsque nous sommes arrivés en France, de travailler, de faire des cravates chez elle à domicile. Enfin voilà, c'était pour essayer de ramener un peu d'argent dans une situation financièrement assez délicate. Donc elle a fait partie de... Elle s'est sacrifiée aussi pour ramener de l'argent. Voilà.
Alors on est en 1960, Enki Bilal, vous avez 9 ans, quand votre mère, votre sœur de 2 ans, votre aînée et vous quittez la Yougoslavie pour rejoindre votre père.
C'est exactement ça. C'était dans les au milieu des années de l'année 1960, donc départ de Belgrade, un peu dans la précipitation, parce que ce départ était prévu. Mon père était censé nous dire, voilà, leur donner le signal du départ. Je suis prêt, tout est prêt, vous pouvez me rejoindre. C'est pas lui qui a donné le signal, c'est moi qui ai précipité le départ en disant comme ça, en faisant une gaffe auprès de ma maîtresse d'école. Alors qu'elle savait très bien que mon père était à Paris, en France, je lui dis, de toute façon, on va partir bientôt. Enfin, je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. J'étais pas du genre effronté, mais là, j'ai répondu quelque chose d'un peu sec, comme ça, abrupt. Et là, il est allé voir ma mère en disant, mais écoutez, si on peut activer, mon mari peut activer votre départ si vous le souhaitez. Ma mère n'avait pas envie vraiment de partir. Et tout ça, c'est une espèce d'engrenage qui s'est lancé comme ça. Le mari de cette institutrice, qui était placé apparemment dans des services du ministère de l'Intérieur, a nous a obtenu assez rapidement des papiers. Et on s'est retrouvé dans le fait accompli de devoir partir pour Paris. Ce qui n'a pas arrangé non plus les affaires de mon père. Enfin bon, bref, on s'est retrouvé de manière un peu précipitée à Gare de l'Est, après 42 heures de voyage en train, évidemment la majeure partie se faisant entre Belgrade et la frontière italienne, ça roulait au pas, je ne sais pas pourquoi, c'est le socialisme qui ne finissait jamais ses chantiers, c'était sûrement déjà un peu ça, et puis c'est un pays qui, bien qu'aidé par la communauté internationale, parce que le fait d'être dans les non-alignés, le fait d'avoir dit non à Staline, tout ça, ça a rendu Tito très très sympathique auprès de l'Occident.
Et d'ailleurs, dans l'histoire, il a une place toujours à part, Tito.
Oui, absolument. C'était un dictateur, hein, bien sûr, parce qu'il tenait d'une main de fer le pays, et notamment ses opposants en savent quelque chose, mais il a été très très aimé par son peuple. Il a réussi à créer cette espèce d'unité sur une victoire quand même très 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 marquante sur le nazisme. Ça en a fait quelqu'un de très respecté. Et puis surtout, je pense que le fait de dire non à Staline, ça a joué encore plus. Et donc voilà, malgré tout, les chemins de fer ne fonctionnaient pas très bien sous Tito. Donc on a mis quand même beaucoup de temps à arriver jusqu'à la frontière italienne. Et puis ensuite, je pense qu'en 5-6 heures, on était à Paris. Mais donc arrivé très tard, comme ça, sous la pluie à Paris, c'était pas forcément un bon souvenir. Le trac de retrouver mon père, c'était pas non plus. Je l'avais pas vu depuis 4 ans.
Qu'est-ce qu'il faisait à Paris
Il souhaitait faire sa carrière de tailleur, de maître tailleur à Paris, où effectivement il avait étudié, non loin d'ici, Place des Victoires. Il avait, déjà en 1936, il était venu passer des cours, apprendre son métier ici. Il n'y a pas vraiment de meilleure école à ce moment-là que l'école de française, je pense. Déjà la mode, c'était déjà très 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 développé ici. Donc voilà, c'était un peu ça le prétexte. Alors, je dis prétexte maintenant parce que à cette époque-là, je le savais pas, ma mère même ne le savait pas, ma sœur non plus. Pour lui, Paris, c'était une étape. En fait, il rêvait réellement d'Amérique, c'était le rêve américain qui s'est pas réalisé pour des raisons de santé. Enfin, les Américains étaient très 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 à cheval sur les visites médicales, un filtre très très sévère pour accepter des étrangers. Ma mère avait une petite tache, un poumon, ce qui n'a jamais rien donné, heureusement, mais en tout cas ils sont recalés, alors qu'on était désespérés à l'idée de quitter la France. C'était en 1967, donc on était depuis 7 ans à peine installés, habitués à la langue française, etc. Et il fallait repartir ailleurs, c'était un drame pour nous tous, sauf qu'il y a eu cette petite tache sur un poumon qui nous a arrêtés. Et qui sait ce que je serais devenu si j'étais parti aux États-Unis.
Quand vous arrivez à 9 ans en France, qu'est-ce que vous savez ou connaissez de la France?
Alors assez peu de choses, sauf bien sûr une espèce de mise en bouche assez rapide de la langue, mais à travers un livre qui était un livre de traduction de mots, enfin quelque chose d'un peu absurde, hein, comme ça, en un mois, essayer de se familiariser avec l'écriture, etc. Je ne sais pas grand-chose, si ce n'est que ce que mon père nous disait dans ses lettres. Donc il était très fier d'être en Occident, dans un pays dont il nous disait évidemment énormément de bien. Mais je savais relativement peu de choses. À l'âge de 9 ans, à part ces informations passées par lui, qui étaient assez peu précises, et c'était pas le propos non plus, hein. Je pense qu'il s'attendait pas à ce qu'on arrive aussi vite, donc il y avait pas... Par exemple, en arrivant en France, je suis très surpris de réaliser assez rapidement que la France est en guerre. Ça me paraissait totalement incongru, mais quoi, la guerre d'Algérie? Bon. Et puis je pense que la maîtrise petit à petit, assez rapidement d'ailleurs, de la langue française qui va vraiment me mettre en contact avec ce qu'est la France, ce qu'est la culture française. Et ça sera un coup de foudre, littéralement. La langue française sera un de mes premiers coups de foudre de gamin.
J'ai lu que vous étiez très bon élève et que vous aviez appris le français en un temps record.
Alors, temps record, non, mais ça va vite. Oui, ça a été rapide. Avec ma sœur, on parlait français rapidement. On voulait absolument s'intégrer. Il y avait ça aussi, hein, dans le désir de mon père, c'était que l'on devienne des enfants respectueux de ce pays qui nous accueillait et qu'on devienne des petits Français. Et ça, c'est plutôt... Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien de sa part. Il nous a pas coupé de la Yougoslavie, parce que lui, il continuait à avoir quand même, il avait des amis, il avait sa seconde vie quand même, hein. Et il nous a jamais vraiment, à part une ou deux personnes, présenté des gens de cette seconde vie. Mais en tout cas, son argument, c'était, il faut que vous baigniez dans la culture française, dans la société française, et que vous deveniez des Français. Alors, des petits Français. Donc, on est devenus des petits Français modèles. On travaillait sans doute plus que les autres petits Français pour être bons à l'école, et on était bons à l'école tous les deux.
Et l'enfant et l'adolescent que vous êtes, Enki Bilal, à ce moment-là, est-ce qu'il perçoit les différences entre les deux villes, les deux sociétés qui désormais vont jalonner toute votre vie?
Je dirais que je ne perçois que ça, parce que c'est... Ne serait-ce que par exemple l'arrivée à de Belgrade, vous savez, on quitte Belgrade, la gare, on parcourt quelques kilomètres, et puis tout d'un coup on est dans la campagne, tout d'un coup, brutalement, le train a quitté Belgrade, la capitale. Et alors que Paris, c'est la banlieue, je ne connais pas ça. Donc même en plus en arrivant à Paris, autre déception c'est de ne pas habiter Paris même, mais d'habiter dans la banlieue. Donc quand j'évoque cette arrivée en gare de l'Est, le soir, tard, sous la pluie, cette voiture d'un ami yougoslave de mon père, qui était un type vraiment formidable, qui nous a beaucoup aidés, c'est lui qui en voiture nous emmène. Et là, petit à petit, les lumières commencent à se raréfier. La ville lumière qui était Paris, moi, ça m'impressionnait. Du côté de la gare de l'Est, c'était effectivement très, très vivant. Et puis, on s'enfonce dans les banlieues. On me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, Paris? Je croyais que c'était plus grand que ça. Où est la Tour Eiffel? J'essayais de regarder dans le ciel si je voyais pas une Tour Eiffel quelque part. En tout cas, voilà, c'est déjà, cette situation est très différente. C'est deux mondes différents. Petit à petit, Belgrade deviendra une boîte secrète à souvenirs, quelque chose de précieux. Et ça, je tiens à le dire parce que c'est important. Le fait de, par exemple, de faire des efforts pour s'assimiler, hein, même littéralement s'assimiler, c'était ça un peu le but. Hein, que l'assimilation est devenu un mot un peu suspect, hein, c'est ce que je trouve absurde. C'est un effort qui me paraissait tout à fait naturel vis-à-vis de la société dans laquelle on venait d'arriver, vis-à-vis des Français, voilà. L'effort, on l'a fait réellement, et j'avais l'impression que plus on faisait l'effort d'assimilation, d'intégration, et plus l'endroit d'où l'on venait, je dis ça pour ma sœur aussi, plus l'endroit d'où l'on venait était sacralisé, donc devenait puissant. Hein, ça avait une réelle puissance dans la mémoire, dans le disque dur, et c'est peut-être pour ça aussi que ça sort de manière aussi spontanée dans mon imaginaire, hein, quand je dessine, hein, ce lien n'est pas coupé, mais ne sera jamais coupé.
Et à propos d'imaginaire, est-ce que c'est à cette période, celle de la fin de l'enfance, début de l'adolescence, que se manifestent vos premiers émois artistiques?
Alors, je pense que mes premiers émois artistiques se manifestent bien plus tôt. Mais est-ce que je sais que c'est artistique, c'est pas le problème. Je ne sais pas. Je me pose pas la question. Je pense même que d'une certaine façon, à Belgrade, mes premiers émois par rapport au dessin, et y compris au cinéma d'ailleurs, parce que j'ai joué dans un film à Belgrade avant de partir. Je ferai de temps en temps des allers-retours hein, quand même, parce que c'est pas la mémoire justement, elle est faite pour ça, pour ces digressions comme ça. Par le dessin, j'ai été repéré par un réalisateur qui lui-même était peintre et qui était venu dans l'école où j'étais chercher une dizaine de gamins, gamines comme ça, pour les faire tourner dans un petit film. Et donc la maîtresse m'a présenté en disant que j'étais un de ceux qui dessinait très très bien. Voilà. Donc j'ai été choisi comme ça. Et donc j'ai tourné de ce film. C'était un souvenir assez formidable d'ailleurs. Et en dessinant sur des trottoirs à la craie. C'était ça un peu le sujet. On se poursuivait dans Belgrade. C'était une espèce d'histoire à la Jacques Tati un peu, avec sans parole, avec une petite musique. Et donc le dessin, l'envie du dessin. Déjà, j'étais impliqué dans quelque chose qui était artistique. Je ne le savais pas, mais en tout cas, ça m'a donné l'envie de continuer. Et dès que je suis arrivé en France, j'avais cette j'avais pas eu d'ailleurs le temps non plus de me rendre compte que c'est le dessin qui est venu à moi et c'est la bande dessinée qui est venue à moi directement. Parce que très vite, on se fait très vite des camarades, des copains à l'école, et très vite je découvre par un de mes copains qui me montre des magazines qui sont des hebdomadaires, Tintin et Spirou, et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, du dessin, c'est formidable. Et donc je pense que je rêve réellement de dessiner. Et puis le fait d'apprendre une langue nouvelle, de tomber amoureux de cette langue, ce que je disais tout à l'heure. Mais tomber amoureux parce que simplement c'est le plaisir, par exemple, de décrire, de raconter. La rédaction, c'était ma matière préférée. Et je prenais énormément de plaisir à... J'écrivais même, parfois, j'écrivais de la typographie comme des romans. J'ai commencé des romans. Et j'écrivais moi-même la typographie pour que ça ressemble à un roman imprimé. Enfin bon, il y avait comme ça un lien particulier déjà au livre. Et alors je disais à mes parents, pour les rassurer, je disais je serai ingénieur quand je serai grand, parce qu'ingénieur ça implique un peu de dessin dans mon esprit. Je me disais on va faire. Mais en fin de compte, non, ils m'ont pas jamais posé de problème, même si ils n'avaient pas forcément les moyens. J'ai pu aller là où je voulais aller.
Donc vous leur faites part de vos désirs de suivre, ou peut-être en tout cas de vous diriger vers une formation artistique.
Absolument. Et alors bon, évidemment, dans un premier temps, tout ça se déroule sur une adolescence jusqu'au bac. Donc là, je suis dans le cursus classique hein, des études, le lycée. Littéraire, évidemment. Mon père me paiera, alors que c'était pas évident, une école par correspondance, sur laquelle je passerais comme ça une année, j'aurais eu un abonnement d'une année à une école payante, évidemment, par correspondance, qui m'a conforté dans l'idée que ça s'appelait la Famous Artist School, c'était américain. Et ça m'a conforté dans l'idée que c'est ça que je souhaitais faire, dessiner. Mais en même temps, j'avais la stimulation, elle venait aussi tout naturellement de cet environnement, Pilote, Tintin et Spirou. C'était le rêve, je rêvais d'un concours ou de quelque chose qui me permette d'entrer en contact avec cet univers. J'ai même à 15 ans, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé la rédaction de Pilote, qui se trouvait rue du Louvre, juste à côté, et j'ai pris rendez-vous avec René Goscinny et Jean-Michel Charlier. C'est pas anodin, ce sont des personnages importants, des auteurs importants. Donc je les rencontre comme ça, dans un rendez-vous très très très... Voilà, un souvenir assez ému de ce moment-là. Ah, ils m'encouragent, ils me disent c'est très bien, continue, mais passe ton bac d'abord. Voilà.
Alors on va en parler de ces années pilotes dans un second temps, dans une seconde période, mais je voudrais juste revenir sur votre formation dans cette école que vous offre votre père. Qu'est-ce que vous apprenez là, à ce moment-là? Alors, est-ce que c'est là que se définit un peu votre style ou on est encore loin de...
Je pense pas que mon style se définisse là, mais ou alors de manière très 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 inconsciente. Mais l'intérêt de ces écoles-là, c'est comme ça que je l'analyse maintenant, c'est qu'elles fassent rêver. C'est qu'elle fasse fantasmer, elle fasse rêver. C'est pas tellement ce que j'ai appris, mais c'est de voir des exemples de grands illustrateurs américains, Norman Rockwell, je parle que de lui quand même, c'est pas n'importe qui, en tout cas qui servait un peu de base à tout ça. Donc c'est de voir, d'être en contact avec l'art graphique, de le regarder, d'essayer de le comprendre, de s'en imprégner. C'est ce qui m'a aussi, d'ailleurs, dans la foulée, j'ai commencé à fréquenter les musées parisiens. J'avais 15 ans, 16 ans, et donc le Louvre. Donc c'est un ensemble, c'est un tout, c'est une façon de mariner comme ça dans quelque chose qui... Et là, à ce moment-là, c'est pas forcément les trucs techniques, c'est un ensemble qui fait qu'on intègre des éléments importants qu'on va ensuite développer, qu'on va retrouver au... Moi, en fait, le côté totalement autodidacte, à part cette expérience-là, et quand même 3 mois aux Beaux-Arts... Mais je me considère comme un autodidacte et je trouve que ça a été une vraie chance parce que au cours de ma carrière, l'évolution de mon graphisme, je découvrais des écueils, je trouve, que logiquement j'aurais dû maîtriser par précisément des acquis techniques que m'auraient offert des Beaux-Arts ou d'autres écoles. Et le fait de ne pas avoir ces acquis techniques me permettait, moi, avec ma maturité et mon inventivité, d'une certaine façon, de les résoudre. Et en résolvant des problèmes techniques, c'est comme ça qu'on se fabrique un style. Souvent, en appliquant des recettes ou des techniques parfaitement apprises, on sans s'en rendre compte, on perd sa propre identité. Sensation, du coup, sa propre identité. Ouais.
Merci Enki Bilal, on se retrouve demain soir.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pierre Chassagneux avec Enki Bilal. À voix nue, réalisation Assia Ralid, prise de son Marcos Darras, Julien Girard, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.